Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. L'actualité ce samedi midi, c'est toujours la Syrie. Un pas important franchi hier soir au Conseil de sécurité de l'ONU avec une résolution qui annonce un plan de paix. Le point d'interrogation reste néanmoins sur le sort du président Bachar el-Assad et nous entendrons la réaction d'un opposant syrien de la première heure, Etman Mana. L'Union africaine se penche sur le sort du Burundi, traversé par une grave crise politique depuis fin avril. Une mission de prévention et de protection de 5000 hommes pourrait être déployée pour protéger les civils. Le président Nkurunziza a 4 jours pour accepter ou non. Au Rwanda, c'est le oui qui l'a emporté après le référendum sur la révision de la Constitution qui permettra au président Kagame de se présenter à un nouveau mandat. Scrutin toujours controversé, nous dira Éléonore Vanel dans un instant. Dans ce journal, nous serons aussi en direct de Madrid avec notre correspondant Mathieu de Taillac. La campagne des législatives est terminée. Que disent les journaux ce midi à un jour de cette élection qui risque de faire exploser le bipartisme établi depuis Franco. On ouvrira la presse ibérique. Enfin, la France, avec un séminaire à l'Élysée pour préparer l'année prochaine, dernière année du quinquennat de François Hollande, et le début des vacances de Noël avec un coup de sang de la FNAUT, la Fédération Nationale des Usagers des Trains. Elle est en colère contre la fin des horaires papier à la SNCF. La diplomatie internationale toujours en action pour sortir le conflit syrien de l'impasse. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution pour mettre fin aux 4 années et demie de guerre dans le pays. Texte adopté à l'unanimité, y compris donc par la Russie. Il prévoit l'instauration d'un cessez-le-feu et des négociations de paix à partir du mois de janvier. Aucune précision, en revanche, sur le sort du président Bachar el-Assad. Avec cette question, fera-t-il ou non partie du processus de transition politique ? Etman Mana, opposant syrien de la première heure, acte ce point d'interrogation, car le plus important, selon lui, c'est d'abord d'aller vers un exercice un peu plus démocratique du pouvoir en Syrie.
On ne peut pas finir avec Bachar el-Assad par le chaos. Si c'est un match de boxe, on va gagner par les points. Et on a perdu 5 ans avec une opposition pro-occidentale, pro-pays du Golfe et Turquie, qui insistait sur la personnalisation de la question. Nous voulons changer le système et pas uniquement le président. Pour ça, nous, on veut, pendant cette période, construire des institutions démocratiques, ouvrir la voie d'une transition réelle vers la démocratie. On a toujours insisté sur une rencontre et un accord entre la Russie et les États-Unis. Parce que on peut pas aller vraiment dans une bonne solution politique s'il n'y a pas cet accord international. Là, les deux vont travailler ensemble pour réussir la résolution de l'ONU. Maintenant, un blocage de la part du pouvoir est clairement un conflit avec la communauté internationale et Assad n'a pas le droit de dire non à une démarche qui fait l'unanimité internationale. On doit terminer avec cette illusion qu'une solution militaire est possible, qu'il soit côté régime ou opposition, pour aller en avant pour une solution politique rationnelle et réalisable.
Des propos recueillis au téléphone France Culture de Sarah Mackey. Toujours au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain à la Défense, Ashton Carter, s'est rendu ce matin sur le porte-avions français Charles de Gaulle. Le vaisseau se trouve actuellement dans le Golfe et il commande les opérations navales de la coalition contre l'État islamique emmenée par les États-Unis. En Éthiopie, situation toujours tendue entre le gouvernement et les manifestants de la région de l'Oromia, région qui entoure la capitale, Addis Abeba. Au moins 75 personnes ont été tuées ces dernières semaines par les forces de sécurité éthiopiennes, selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Les manifestants, issus pour la plupart du peuple Oromo, craignent des expropriations forcées de leurs terres pour développer la capitale, manifestants qualifiés de terroristes par le gouvernement. Toujours en Afrique, l'Union africaine au secours du Burundi. Le pays traverse des affrontements violents depuis la tentative ratée d'un coup d'état militaire au mois de mai. On parle même de situation pré-génocidaire entre Hutus et Tutsis. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA s'est réuni hier à Addis Abeba en Éthiopie. Il autorise le déploiement d'une mission africaine de prévention et de protection du Burundi. Une mission qui sera déployée pour 6 mois renouvelable avec 5000 soldats. Il y avait urgence, selon Smail Cher, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine.
la situation, qu'on ait un glissement dangereux. Dans cette phase-là, on est presque en guerre civile. C'est ça ce qu'il faut craindre tout de suite. Mais évidemment, nous avons nos propres observateurs des droits de l'homme et militaires. Nous attendons toujours de pouvoir les ramener à 100 au lieu de 30 actuellement. Deuxièmement, évidemment, c'est d'envoyer cette force de stabilisation du niveau d'une brigade, donc c'est-à-dire 5000 hommes, y compris donc l'unité police, donc pour stabiliser la situation. Cette force, elle sera évidemment sous commandement de l'Union africaine. Cette force viendrait essentiellement de la East African Force. Son mandat, c'est stabiliser le pays, le préparer à une solution politique inclusive. On devrait nous attendre à ce que le Conseil de sécurité appuie pleinement ce déploiement et donne des moyens à l'Union africaine pour l'accomplir dans des conditions acceptables.
Le président Nkurunziza a 4 jours pour accepter ou non cette proposition de l'Union africaine. En parallèle, une autre tentative de médiation est en cours, celle de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le ministre ougandais de la Défense est arrivé ce matin à Bujumbura. Il doit faciliter les facilitateurs entre le président et son opposition. Au Rwanda, c'est sans surprise le oui qui l'a emporté. Hier, les Rwandais ont massivement approuvé par référendum la révision de la constitution de leur pays qui permettra à Paul Kagame, l'actuel président, de se présenter à un nouveau mandat et potentiellement de diriger le pays jusqu'en 2034. Éléonore Vanel, bonjour.
Bonjour.
Comment est accueilli ce résultat à l'étranger, mais d'abord peut-être sur place à Kigali?
Alors nous avons vu la volonté du peuple, il avait demandé le changement de constitution et il l'a obtenu. C'est ce qu'a déclaré Kalisa Manda, le chef de la commission électorale rwandaise, car le résultat est bien là, plus de 98% de oui. Avec cette réforme, Paul Kagame pourrait se maintenir au pouvoir 17 années supplémentaires. Dans le petit pays, seul un petit parti, le Parti démocratique vert, s'est ouvertement opposé à la réforme. Il a critiqué notamment le délai trop court, 10 jours, entre l'annonce du référendum et du vote. À l'international, on doute clairement de la spontanéité d'un tel engouement populaire, à commencer par la délégation de l'Union européenne à Kigali, qui critique un manque de temps et d'espace accordé pour le débat. Le texte de la Constitution révisée avait été, en effet, publié moins d'un jour avant le vote et de nombreux Rwandais admettaient ne pas connaître le détail du nouveau texte. Les États-Unis, eux, condamnent la réforme et appellent Paul Kagame à quitter le pouvoir en 2017, comme prévu initialement par la Constitution. Le président a balayé ses critiques. Il a déclaré hier « Quand il s'agit de définir l'avenir d'un pays, personne d'autre que les Rwandais n'a le dernier mot. Il faut dire que c'est un habitué des votes massifs en sa faveur. En 2003 et 2010, il avait déjà été élu avec plus de 90% des voix. »
Éléonore Vanel du service international de France Culture. En Espagne, les élections législatives s'annoncent comme les plus ouvertes depuis 40 ans. Les grandes formations traditionnelles, le Parti Populaire et le Parti Socialiste, devant faire face à la montée de deux nouveaux venus, Podemos et Ciudadanos. Le Parti Populaire du Premier ministre sortant, Mariano Rajoy, reste en tête des sondages mais n'est pas assuré de pouvoir gouverner seul. Bonjour Mathieu de Taillac.
Bonjour Mathieu de Taillac.
Bonjour Anne, buenos dias.
Vous êtes en direct de Madrid et vous avez ouvert les principaux titres de la presse espagnole pour France Culture ce matin.
Oui, et ce qui préoccupe à peu près toute la presse, ce sont los pactos, les pactes, les alliances entre les partis politiques. Parce que tous les sondages le disent, aucun parti n'aura la majorité absolue. Il faudra donc soit former des coalitions, soit au moins des accords pour investir un chef de gouvernement. El País, titre à la une, les partis terminent la campagne sans préciser leur politique d'alliance. Le journal de centre-gauche précise quand même en sous-titre, Rivera, c'est-à-dire le candidat de Ciudadanos, centriste, s'abstiendra lors de l'investiture s'il n'est pas premier. Rajoy espère gouverner en minorité. Sanchez, c'est le socialiste, agira en fonction des résultats. Iglesias, de Podemos à gauche, veut le pouvoir s'il termine second. À Barcelone, le quotidien La Vanguardia titre « Les candidats s'attaquent sur les pactes post-électoraux ». Il cite par exemple Pedro Sanchez. La gauche, qui se dit nouvelle, autrement dit Podemos, ne se sent bien que dans la protestation. El Periódico, de son côté, parle de la campagne la plus disputée de la démocratie.
Mathieu, les journaux espagnols affichent-ils des préférences sur ces alliances ?
Oui, certains sont même très explicites. ABC et La Razón, deux journaux conservateurs, ont appelé à voter PP. ABC titre ce matin « La fin de campagne ouvre un dilemme entre Rajoy ou une coalition de gauche ». Le quotidien laisse entendre qu'il préfère une alliance entre PP et Ciudadanos. El Mundo Liberal dit dans son éditorial que cette année, ils ne donneront pas de consignes de vote car les Espagnols sont suffisamment autonomes pour se former leur propre opinion. Fin de citation. Mais El Mundo appelle tout de même à voter pour une Espagne unie. C'est une réponse à l'indépendance l'indépendantisme catalan, contre lesquels les plus fermes sont le PP et Ciudadanos, une Espagne plurielle et régénérée, autrement dit sans doute avec un nouveau parti, soit Podemos, soit encore une fois Ciudadanos. L'alliance de la droite et du centre, croit savoir le quotidien basque El Correo, serait en tout cas la préférée par les marchés, c'est son titre à la une, mais les milieux d'affaires craignent une remontée de Podemos et les analystes indiquent que les sondages augurent un risque d'ingouvernabilité. C'est la menace qui préoccupe une partie de la presse et des Espagnols.
Mathieu de Taillac, merci. Vous étiez en direct de Madrid pour France Culture. Aux Seychelles, le président sortant, James Michel, a été réélu sur le fil pour la troisième fois. Le scrutin a été très serré avec son adversaire, Vavel Ramkalavan, qui demande d'ailleurs un nouveau décompte des voix. C'est un second tour inédit pour une présidentielle dans cet archipel de l'océan Indien. Ce n'est pas encore les vacances pour le gouvernement qui se réunit aujourd'hui à l'Élysée pour un séminaire comme il s'en tient régulièrement, le dernier ayant eu lieu il y a 3 mois, juste après la rentrée. L'ordre du jour précis n'a pas été dévoilé aux journalistes, mais il s'agit de faire le tour des sujets urgents avant le dernier Conseil des ministres de mercredi et les vœux du président de la République le 31 au soir. Yael Goz.
La rentrée, la réponse au choc des régionales, c'est maintenant qu'elle se prépare. À huis clos ce matin, François Hollande construit avec son gouvernement ses vœux du 31 et sa feuille de route 2016, dernière année utile avant la présidentielle. Et sur la table, 3 urgences, 3 chantiers. D'abord la lutte contre le terrorisme. Le projet de loi constitutionnelle arrive mercredi en Conseil des ministres avec 2 volets. L'état d'urgence, il faut réviser l'article 36 et la déchéance de nationalité. François Hollande l'avait proposé juste après les attentats, mais l'exécutif serait sur le point d'y renoncer, trop clivant, mesure symbolique mais inefficace. C'est au président de trancher. Depuis le début de la semaine, Manuel Valls démine et prépare les esprits. Deuxième urgence, l'emploi. Le président va s'appuyer sur sa ministre du Travail, Myriam El Khomri. L'exécutif veut mettre le paquet sur la formation des chômeurs, l'apprentissage pour les jeunes et encourager les emplois de service. Obligation de résultat, François Hollande n'a toujours pas inversé la courbe. Enfin, troisième urgence, l'écologie. La COP21 a été un succès diplomatique. 2016 doit marquer sa mise en œuvre pratique.
Précision signée Yael Goz. Le début des vacances de Noël, la cohue sur la route, dans les gares et la Fédération nationale des usagers des trains, la FNAUT, ne décolère pas. Elle vient de découvrir que la SNCF avait décidé de supprimer tous les dépliants en papier qui permettaient de connaître les horaires des trains. Un scandale selon Bruno Gazot, son président.
Elle a une très très grosse colère parce que dans le cahier des charges de la SNCF, elle a obligation, c'est-à-dire son intérêt commercial, d'informer les usagers évidemment sur les horaires des trains, par tout moyen. Alors évidemment la société se numérise, donc beaucoup de gens ont accès à Internet, mais quand même un quart de la population consulte toujours les horaires sur des fiches papier. Et même ceux d'ailleurs qui consultent sur Internet, quand ils vont dans une gare, prennent les horaires papier. Or la SNCF a décidé unilatéralement, sans prévenir personne, à l'occasion du service 2016, de supprimer les horaires papier. Voilà, donc je trouve ça scandaleux, c'est honteux. Si on voulait supprimer les trains, on ne s'y prendrait pas autrement. Si on voulait vider les trains, on ne s'y prendrait pas autrement. Ça fait des économies à la SNCF, c'est sûr, mais le problème c'est que pour avoir des voyageurs, il faut quand même les informer des horaires de train. Enfin, s'il n'y a plus d'horaires de train, comment vous voulez remplir les trains? Quelle est l'entreprise privée qui se priverait d'une information voyageur par tout moyen pour avoir des clients?
Bruno Gazot, le président en colère de la FNAUT, la Fédération nationale des usagers des trains. Un événement aujourd'hui à Paris, le 100e anniversaire de la naissance d'Edith Piaf. La môme est née le 19 décembre 1915. Une messe a été célébrée ce matin dans le 19e arrondissement de Paris. Elle a été suivie d'un hommage chanté par différents artistes, dont Jacqueline Boyer ou la chanteuse Germaine Ricord. Germaine Ricord, qui avait chanté en première partie de Piaf dans les années 50. Pour terminer, un coup d'œil au temps de ce samedi. Il sera plutôt ensoleillé avec un ciel légèrement voilé en Bretagne, en Vendée et dans le sud du pays. Les températures, elles restent douces. 7 à 13 degrés du Nord-Pas-de-Calais à la façade atlantique et de 5 à 9 degrés ailleurs. Les maximales de 18 à 22 degrés au sud de la Garonne.